Vous écoutez
RMC. L'After Foot, intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Bribois.
Bonjour à tous, la nuit de l'After continue, c'est la 20e en direct de notre studio américain ici à New York, à quelques centaines de mètres du stade où la France vient de se qualifier de finale de la Coupe du Monde face à la Suède 3-0. L'After est sur RMC, l'After est sur la chaîne YouTube de l'After Foot bien sûr. On est là jusqu'à 5h du matin dans l'After, première radio de France, plus que jamais, le soir, la nuit, avec Daniel Riolo. Salut Daniel.
Bonsoir les amis.
Avec Florent Gautreau, salut Florent.
Salut Gilbert, salut à tous.
Avec Samuel Umtiti qui est avec nous, salut Samuel.
Salut à tous.
Et avec Jean-Louis Tour qui est au stade. Jean-Louis, tu es là, salut.
Salut tout le monde.
Évidemment l'événement c'est cette qualification. On va analyser le match ensemble dans le détail, on va faire l'évaluation joueur par joueur, on attend les premières réactions. La France est en...
Je vais trouver. Huitième
de finale. Ce sera face au Paraguay samedi soir à 23h, heure française. Et puis, alors, sachez qu'avant 2h du matin, on donnera également notre avis sur le dernier match du jour, Mexique-Équateur, tout à l'heure à 3h du matin, que vous vivrez également sur RMC. Le 32-16 est ouvert, le numéro WhatsApp de l'After également, 0612-424-424. C'est parti, avec les 3 points, bien sûr. Jingle.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les 3 points.
Soit l'essentiel, c'est le plus important.
Daniel.
Le premier point, c'est la victoire propre, nette, une supériorité incontestable des Bleus. Donc le très bon match des Bleus. Le point 2, c'est encore une fois la performance du capitaine Kylian Mbappé qui emmène tout le monde derrière lui avec notamment Michael Olise, encore auteur d'un super match. Je ne sais pas si le point 3, je vais laisser vu qu'on est beaucoup. Mais la Suède a vite montré qu'elle était résignée et qu'elle ne pouvait rien faire face à ces Bleus qui s'annoncent de plus en plus comme les favoris de cette compète.
Plan. Mon point 1, c'est que la France est plus que jamais le favori de cette Coupe du Monde, puisque là, sur les différents 16e de finale, il n'y avait eu qu'un but d'écart maximum. Il y avait beaucoup de matchs serrés. Là,
oui,
il y a 3 buts.
Sur
tout ce qu'on a vu depuis le début, c'est clairement l'équipe qui s'en est débarrassée le plus rapidement possible de tout suspense. Donc l'écart, il est net. Le deuxième point, c'est Mbappé, 18 buts en 18 matchs de Coupe du Monde. Bon, bah là, l'histoire pour lui est en train de s'écrire et c'est un autre homme en équipe de France par rapport à la saison qu'il a vécue. Et le troisième point, c'est le côté gauche plus technique et tactique. Les changements du côté gauche, dit Barcola et notamment Barcola, bah, ça nous fait un bon côté gauche pour la suite de la compète.
Samuel, tes 3 points.
Mon premier point, ça sera l'équipe de France, leur qualification qui pour moi est méritée. Ils ont été à la hauteur du rendez-vous de la rencontre. Ensuite, mon second point, c'est Kylian, bien évidemment le leader de cette équipe qui répond présent. C'est sa Coupe du Monde, c'est sa compétition. Et mon troisième point, je parlerai du côté gauche de Lucas Digne qui pour moi a été un bon match, cohérent, bon dans les duels défensivement et a apporté ce qu'il pouvait offensivement. Donc voilà, très bon point pour lui.
On va évidemment rentrer dans les détails, joueur par joueur, on attend les réactions, je l'ai dit. Mais j'aimerais démarrer par ça, moi les gars, parce que j'ai l'impression, en fait ce soir c'est une démonstration. Mm-hmm. Il y a une puissance, une espèce d'assurance dans le jeu. Ça peut venir de droite, de gauche, dans l'axe, quasi de n'importe quel joueur. T'as une sorte de supériorité qui est incroyable ce soir.
C'est-à-dire que
ils ont démonté les Suédois.
Mais est-ce qu'on
c'est impressionnant. Non, mais je veux dire, c'est impressionnant ce qu'on voit. On est à la Coupe du Monde là.
Je suis
mesurer ça à l'aune de l'histoire de l'équipe de France, du monde récent.
Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, mais je pose quand même une question. Est-ce qu'on doit être surpris? Les joueurs, on savait qu'on avait un potentiel de fou. On savait qu'on avait une équipe qui était en mission. On savait que le groupe était parfaitement uni. Je ne doutais pas une seconde de la performance des uns et des autres. La seule chose dont on a douté au début de la compète, c'est la faisabilité de jouer de cette façon, c'est-à-dire avec les quatre devant. Mais pas tant. Enfin, c'était plus dans toujours pareil. Je dis, est-ce que réellement Deschamps changera ou ne changera pas, ou est-ce que les idées sont claires? Pendant que nous n'avions pas les idées claires, eux avaient les idées claires et c'est bien le plus important. Et aujourd'hui, les idées sont tellement claires qu'il n'y a plus de doute que c'est comme ça. Les derniers doutes sont en train de s'effacer et Sam a immédiatement fait référence à ça. Et je pense que quand il développe le point 3 sur Dean, c'est aussi pour nous dire, bon, ben, c'est clair que c'est Dean qui va continuer, que la compo, on l'a maintenant. Et que oui, il y a peut-être Barcola et Doué qui vont se partager le match, mais ça, peu importe. En tout cas, on a une ossature à quasiment 9 joueurs. On a l'état d'esprit qui est là. On a la puissance de nos attaquants.
On a l'arrière.
On a un Mbappé qui est en feu. Oui, je viens de le dire, Dean installé. On a Olise en meneur de jeu. C'est bon. Enfin, tout roule maintenant. Alors, au fur et à mesure, les adversaires vont forcément devenir de plus en plus costauds. Est-ce que ça doit ajouter de l'inquiétude? Moi, c'est pas de l'inquiétude. C'est probablement peut-être. Je peux pas croire qu'on va gagner 3-0 tous les matchs jusqu'à la finale, mais qu'en tout cas, on soit compétitif et apte à les gagner jusqu'à la finale. Ça, je le crois parce qu'on a trop de qualité. En fait, il suffit juste de regarder le nom des joueurs. Le nom des joueurs chez nous. Tu regardes les Allemands hier qui ont perdu, même si c'était qualifié. T'es au-dessus. Tu peux tous les prendre. Et même l'Espagne, qui est l'autre favori. Si tu n'as pas un Yamal au sommet capable de porter un peu cette équipe, tu seras au-dessus également. Et tu vas être au-dessus, je pense, de quasiment toutes les équipes.
Bon, l'Argentine. Donc,
on verra l'Argentine. Si on en reparle de l'Argentine,
aussi impressionné,
ce sera la finale.
Donc, est-ce que tu es impressionné
oui,
comme nous?
Après, quand Daniel dit oui, il y a juste à regarder les noms, c'est vrai. Mais réellement, il faut regarder aussi leur état de forme. Leur état de forme, tu vois que l'équipe, quasiment tout roule, offensivement ça roule.
Mbappé, on a l'impression qu'il a retrouvé des jambes il y a 5 ans.
Oh, il a retrouvé, il se prépare. Exactement, il a bossé et je pense qu'il se préparait pour cette Coupe du Monde et il est présent au milieu de terrain. On est présent derrière aussi, les deux centraux pour moi ont été très bons et sur les côtés, on entendait depuis quelques temps que ça allait pas, mais moi je les ai trouvés. J'ai trouvé une équipe très cohérente, très costaud et qui n'était pas en difficulté. Oui. Je pense que le niveau peut-être va augmenter, peut-être pas sur le prochain match, parce que c'est le Paraguay. Non, mais après, si on joue une équipe comme l'Espagne ou le Portugal, oui, mais cette équipe est prête.
Il peut y avoir le Maroc
aussi,
entre-temps.
Normalement,
oui,
il y a le Maroc avant.
Pour hausser pour moi, son niveau de jeu, on est au-dessus. Et comme j'ai dit au début de la compétition, ça dépend que des joueurs. Si les joueurs sont comme ça, ça va être très difficile.
Je vois pas qui peut nous arrêter.
Mais encore une fois, il y a pas une vérité. Il y a pas réellement une vérité.
Pour moi,
on est sûr, on va gagner. Et ça dépend que de nous. Si on a cet état d'esprit là, on ira loin.
Pour moi, c'est vrai globalement, sauf que comme je reste persuadé qu'il fallait remodeler les latéraux, il l'a fait avec Digne et je pense que ça change pas mal de choses. Je pense toujours malgré tout que le côté droit, et on l'a pas trop vu aujourd'hui, il y a aussi sans doute quelque chose à voir avec Koundé, mais bon, pour l'instant il va continuer comme ça. Après, le Paraguay sera très différent de la Suède parce que la seule chose qui était intéressante avec la Suède, on l'avait dit dans l'avant-match, nous, c'est que comme ils pouvaient s'en sortir qu'en marquant un but avec leur bonne attaque, ils l'ont d'ailleurs un peu essayé
pendant 20 minutes, un peu plus, ils ont existé.
Ouais, et donc,
jusqu'à la première pause fraîcheur.
Voilà. Et donc, tu avais un peu plus, toi, de possibilités. Toi, ce ne sera pas comme le bloc bas paraguayen face à l'Allemagne, qui sera sans doute un tout petit peu plus chiant à contourner. Mais enfin, effectivement, en termes de niveau, ça va
péter très vite, le Paraguay.
Écoutez Kylian Mbappé, et ensuite, je donne la parole à Jean-Louis au stade. Kylian Mbappé, il y a quelques instants, à la sortie du match.
Non, je dis toujours que je suis conscient de ce que je joue, conscient d'où je suis et ce que je dois faire, mais c'est pas seulement moi, je pense que l'équipe est parfaitement consciente de ce qu'on doit faire ici. C'était une nouvelle compétition qui commence aujourd'hui, on a bien joué, on a une entame un peu timide. Je pense qu'on pouvait mieux entamer le match, mais après on s'est vu mid dedans. On a eu des occasions qu'on pouvait mettre avant, mais vous savez, ça fait partie du foot, on a réussi à marquer et on a contrôlé le match.
Dès que vous avez marqué votre premier but, vous avez couru dans les bras du sélectionneur, ça a dû lui faire chaud au cœur, c'est quelque chose que vous aviez anticipé?
Non, je pense que c'est l'idée de ce groupe, c'est l'ADN de ce groupe. On est tous ensemble, on sait que le coach il a vécu une épreuve que malheureusement tout le monde va y passer et c'est très difficile, il y a des choses plus importantes que le foot. Mais il faut qu'il sache, et il le sait déjà, mais à travers ce geste de toute l'équipe, il sait qu'il ne sera jamais tout seul avec nous et quoi qu'il arrive, on va le soutenir.
Je vous sens très concentré, j'ai l'impression que vous êtes déjà tourné vers le Paraguay là.
Je suis déjà tourné vers le vestiaire et la clim un peu parce qu'il fait chaud, mais on va se mettre vers le Paraguay. Ils ont montré que c'était une équipe qu'il fallait prendre au sérieux, ils ont battu l'Allemagne, donc il n'y a pas de match facile en Coupe du Monde et on va aller là-bas pour essayer de gagner.
Merci Kylian, bravo encore.
Voilà pour Kylian Mbappé. Alors Jean-Louis, est-ce que toi aussi du stade t'as ce sentiment de un peu d'invincibilité là qu'on a ressenti nous devant la télé?
Ah bien sûr,
Bien sûr. Et franchement, on prend une claque, nous, du stade. C'est une impression de puissance qui est énorme. Et surtout, moi, ce que j'ai trouvé frappant, c'est le moment en première mi-temps où ils ont décidé qu'il fallait appuyer. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, les 20 premières minutes, elles sont pas dingues de la part de l'équipe de France. Et les Suédois sont au max du max de ce qu'ils peuvent faire à ce moment-là. Et même à ce moment-là, c'est à peu près équilibré et on concède pas d'occasion. Mais par contre, il y a un moment où Olise, il s'est dit là, on peut leur faire mal. Là, on peut insister, on peut appuyer. Tous les ballons sont passés par lui et on parle du score, il y a 3-0, mais il y a aussi deux poteaux, il y a des miracles du gardien, enfin ça peut finir à 6 hein, sans trembler.
Et en fait, oui. Jean-Louis, en fait, peu importe que ça finisse à 2, à 3, à 4, c'est juste ce que tu as dit.
Non, c'est pour dire le danger qu'on
oui,
crée.
Non, mais c'est ce que tu as dit est le plus important, c'est ce sentiment de supériorité et en fait l'idée qu'il ne va rien t'arriver. Il va rien t'arriver dans ce match parce que au-delà des 20 minutes où les Suédois ont existé, mais 20 minutes dans un match de 90.
Est-ce que vous avez déjà vu un match de Coupe du Monde de la France aussi sereinement?
Non, parce que même si tu te réfères. Non, parce que même si tu te réfères au passé, à 2018 et à 2022, il n'y avait pas cette maîtrise-là. Parce que le style de jeu était différent, donc te donnait tout le temps l'impression qu'il pouvait t'arriver quelque chose de négatif parce que tu défendais quand tu défends, même si tu défends très bien, même si toi t'as l'impression de maîtriser, bon bah t'es sollicité, donc il peut toujours y avoir un geste, quelque chose, tout. Là en fait t'as inversé le truc, t'es tellement dominateur même dans le jeu, t'es solide derrière. Où sont les failles? Où sont les failles?
Et Daniel, et Daniel,
les Suédois à la 60e.
Moi, c'est ça que j'allais dire, Gilbert.
Ils pleuraient pour que ça se finisse parce qu'ils étaient.
Ça, pour le coup.
Ils sortaient rien.
Ça, pour le coup, je l'ai rarement vu de la tribune, une équipe qui abandonne et qui a envie que le match s'arrête comme ça.
Ben
c'est-à-dire
oui,
que
ben
la différence d'attitude chez Gyökeres. Regardez le match de Gyökeres. Au début, il va batailler, il va au contact avec Saliba, il se dit je peux le jouer, etc. On va y aller et tout. Et à la fin, il fait même plus les efforts. Ils ont lâché, ils ont jeté le gant, les Suédois, et ils voulaient que ça s'arrête.
Non, c'est jeter l'éponge,
pardon. Ils ont jeté l'éponge complètement. Et j'ai rarement vu ça du stade, en tout cas.
C'était une sorte de Barcelone-Léganès 5-0 à la 60e.
Ou de PSG Toulouse.
Ouais, c'est une grande maîtrise, honnêtement, de voir ça. Une équipe de France, ça faisait longtemps. Je pense qu'on n'avait pas vu une équipe comme ça avec tant de maîtrise sur un match. Et c'est très bien. Et que les failles, on les voit pas forcément quand l'équipe est comme ça. Bah, tu te dis, mais qu'est-ce qui peut se passer? Pas grand-chose. Et certes, cette équipe, je pense, de la Suède a vite lâché, mais c'est dû aussi à ce que l'équipe de France a proposé. Donc il faut continuer comme ça face au Paraguay, même si ça va être différent. Je pense que le Paraguay va peut-être beaucoup plus rentrer dans notre équipe. Ça va être un peu plus compliqué dans les duels, dans l'intensité peut-être, mais on a tout pour passer ce tour encore.
Pour que ça devienne non pas inquiétant mais en tout cas plus disputé, il faudrait une équipe en face qui soit capable de garder déjà un petit peu plus le ballon. Je pense, il faudrait qu'on ait la confirmation, mais je suis pas sûr qu'on dépasse de beaucoup 100 km en course cumulée pour les Bleus dans un tel match. Ça s'est pas joué sur un rythme frénétique. Il faudrait voir si les Bleus sont obligés de courir un petit peu plus, donc de défendre un petit peu plus, et donc les joueurs offensifs de faire plus d'efforts, d'être moins frais dans les phases de conclusion. Il faudrait voir quel genre d'équipe peut être capable de prendre un petit peu le ballon pour nous faire courir après et nous emmerder un peu plus. Il y en a pas beaucoup dans cette Coupe du Monde, je pense. Il y a peut-être, si tu croises l'Espagne à un moment.
Moi, je crois que le Maroc aussi, qui est protagoniste, qui peut essayer.
Le Maroc hier a été très bon, donc
très bon dans la possession de balle, et compris dans les passes physiques.
En puissance physique, ça va.
Mais par rapport à ce que tu disais sur la possession, tu sais, sur l'idée de garder, de ne pas lâcher vite, de ne pas chercher tout de suite la passe en profondeur, de faire tourner. Moi, il y a autre chose. Déjà, je rejoins Samuel sur le profil de match. J'insiste sur le prochain. Évidemment que la France sera supérieure, mais ce sera un profil et un schéma finalement plus compliqué que la Suède, qui en plus a abdiqué très vite s'il ne sera pas le cas du Paraguay. La deuxième chose, c'est, ça me fait penser aux commentaires qu'on fait parfois sur le Paris Saint-Germain quand il commence à monter en puissance dans la deuxième partie de saison, et l'impact mental que ça a sur les adversaires.
Oui.
C'est-à-dire que moi, j'ai vu dans l'avant-match, on en a parlé avec Nico Jamin tout à l'heure, j'ai vu, tu sais, ce 11 combiné qu'une télé suédoise a voulu faire en disant bah, on fait un 11 combiné des deux 11, mais en fait, on met 11 Français. Ils étaient totalement sur ce complexe d'infériorité. Et ils avaient raison.
Tu peux mettre qui, les Suédois?
Non, mais ouais. Tu vois, il y avait des bons joueurs, mais ils avaient raison. Et je dis que là, ce soir,
Danemark au skip. Ouais. Tu en fais avec le skip.
Ce qui se passe, ce qui s'est
le
passé.
Seul truc, si tu fais un comparatif IKEA Conforama, peut-être là et ceux qui.
Peut-être. Ce qui s'est passé cet après-midi, c'est donc non seulement important pour la confiance des Bleus, mais c'est important aussi parce que le monde les regarde. Et donc les autres équipes, les adversaires qui les regardent, même les forts là, les Espagnols, les Marocains et autres, ils regardent les Bleus ils se disent waouh, oui. compliqué. Donc l'impact mental
que tu mets aux autres. Face aux Bleus sans avoir
la peur,
sans dire peur, mais au moins attention,
une vraie crainte.
Permettez-moi une mise en perspective, ce que je cherche depuis tout à l'heure. Je pense que pour voir une équipe de France aussi impressionnante,
c'est à l'Euro 2000.
T'as l'Euro 2000 et l'Euro 84.
C'est ça.
Oui, mais c'est à l'Euro. C'est vrai que c'est marrant.
L'Euro 2000 et l'Euro 84.
Non, mais c'est une compétition internationale.
J'ai pas l'équivalent en Coupe du Monde. Mais oui, à l'Euro, t'as raison.
À la Coupe du Monde, jamais.
Enfin, ouais. À l'Euro 2000, tu te balades pas non plus.
Tu te balades tous les matchs.
Voilà, c'est ça. C'est ça. Non, mais il y avait un mais
t'avais cette espèce de rouleau compresseur. Non, mais
alors attends, il faut quand même, si vous faites ce genre de parallèle historique, il faut quand même être précis. Sans rien enlever à la performance de nos bleus là maintenant, il faut pas non plus raconter n'importe quoi.
C'est ça.
Quand tu parles aussi bien de l'Euro 84 que de l'Euro 2000, d'abord, l'Euro 2000, c'était pas un tel survol et t'as pas joué les mêmes équipes quand même.
C'est pour ça que
tu joues pas les mêmes équipes. Quand tu, voilà, là, tu survoles. Pour l'instant, à mon sens, tu avais fait une mi-temps contre le Sénégal, une première décevante. Après, t'avais joué personne. T'avais joué la Norvège, l'équipe B, et t'avais joué l'Irak, qui, bon, ne vaut pas grand-chose. Là, tu montes en puissance, petit à petit. On leur enlève rien, mais on est dans une montée en puissance. Tu as baladé, écrasé un adversaire qui s'appelle la Suède. À l'Euro 2000, rien qu'en phase de poule, t'avais les Pays-Bas. L'Espagne est venue après. L'Espagne est venue en quart.
Oui, l'Espagne est en quart.
Après, t'as eu le Portugal.
Danemark. À Bruges.
Voilà. Danemark. Mais voilà. Donc, t'avais quand même des adversaires d'une autre qualité quand même. Donc là, on monte en puissance, mais c'est pour ça qu'il faut, même si on est ravi de ce qu'on voit, et je n'enlève rien au fait que les qualités intrinsèques des joueurs et du collectif, de l'état d'esprit, et il a insisté là-dessus, Samuel, il a bien raison, parce que dans une compétition comme ça, ce qui prime au-delà des qualités individuelles, c'est également l'état d'esprit global. Oui, je pense que personne ne doit nous faire peur. Et oui, tu as largement les qualités pour aller au bout.
Pour moi, ce 16e de finale, vu la config, c'est presque un quatrième match de poule selon l'adversaire que tu as.
C'est ça. Ouais.
Et
t'as
un vrai quatrième match de poule dans lequel tu. Mais ce qui est important dans ce match de poule, c'est outre l'impact dont je parlais pour les adversaires qui voient l'équipe de France si forte, c'est toi et tes certitudes. Tes certitudes, si tu veux, par rapport à ton jeu et à ton effectif. C'est-à-dire que tu te dis, eh ben là, on est costaud. Oui, les 4-2 devant, on sait comment les positionner. Oui, on a notre arrière-gauche et c'est plus costaud qu'il y a une semaine. Donc, l'intérêt finalement de cette montée en puissance, quel que soit l'adversaire, c'est d'avoir des certitudes en plus. Et ça, c'est quand même un vrai avantage par rapport à la suite de la compète. Mais là où Daniel a raison, c'est que si on compare par rapport aux grandes compètes, bah, la Suède, c'est l'équivalent d'un Danemark, par exemple. En gros, ça dans un Euro.
Même à l'Euro 84, quand au premier tour, tu as le Danemark, la Belgique, qui à l'époque était une équipe très forte. Le Danemark, c'était fort. La Yougoslavie, c'était pas n'importe quoi à l'époque. Voilà, on n'a pas encore affronté pour l'instant de très gros adversaires. N'oublions pas que la Suède a galéré comme c'est pas possible pour être là, et avec le nombre de points qu'ils ont eu, mais bon voilà, mais ça n'enlève rien à notre performance. On est ravis, moi j'adore ce que produit cette équipe. Il faut juste qu'on avance tranquillement, restons tranquilles, sereins et heureux.
Dans un instant, on va revenir et on écoutera Didier Deschamps. Et puis allez sur la chaîne YouTube de l'After, il est 1h13 du matin et vous êtes près de 20 000 à être connectés avec nous.
C'est bien ça.
C'est énorme.
Très bien.
L'équipe de France donne envie d'écouter l'After et on est ravis de tous être avec vous, que ce soit sur RMC ou sur YouTube. Donc on continue jusqu'à 5h du matin avec tout à l'heure le dernier 16e du jour entre le Mexique et l'Équateur, et dans un instant on est de retour avec Deschamps et surtout avec Mbappé, parce qu'il faut qu'on parle de Kylian Mbappé qui a encore été étincelant ce soir. À tout de suite à l'After.
L'After Foot, intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Bribois.
Il est 1h16 du matin en France, il est 19h16 ici dans le studio new-yorkais de l'After. Daniel Riolo est là, Florent Gautreau est là, Samuel Umtiti est là, Jean-Louis Tour est au stade, toujours après la victoire totalement maîtrisée de l'équipe de France 3-0 face à la Suède. Écoutez Didier Deschamps, sa première réaction tout à l'heure après le match.
Beaucoup de fierté, on est en mission, moi aussi, avec eux. Voilà, jusqu'à notre match, il y avait eu des 16e compliqués, très difficiles. Je ne vais pas dire que le nôtre a été simple, mais on a eu de la marge quand même, même si on aurait pu être plus efficace en première mi-temps. Donc, il faut apprécier. On sait que dans 4 jours, on en a un autre, mais on est là pour ça, les joueurs sont là pour ça. Il y a une autre étape à franchir, celle-là, elle est franchie. Je dirais que c'est logique, certainement, et naturel, mais il faut apprécier quand même. Quand on fait bien les choses et bien ensemble avec un très bon état d'esprit, beaucoup de fierté.
Vous avez une très belle étoile qui vole sur vous là-haut pour aller chercher la troisième étoile pour les Bleus.
J'en ai pas qu'une, j'en ai trois malheureusement. Donc, vous savez, les étoiles, oui, elles sont en haut. Après, il y a une autre étape. Ça sert à rien de se projeter plus loin parce qu'autrement, on sera vite rattrapé par la réalité si on garde... cette concentration, cette détermination, évidemment qu'il y a de la qualité et du talent. Mais dans 4 jours, on doit remettre ça.
C'est ce que j'allais vous dire. On est tous avec vous. J'allais vous dire que pour cette équipe du Paraguay, comment vous projetez ?
Déjà, oui, je les ai vus. C'est pas par hasard. Et l'équipe d'Allemagne est une belle équipe. Voilà, après, il y a cet ADN sud-américaine où ça accroche, c'est dans les duels. Mais il y a des bons joueurs aussi. Hein. On ne peut pas se qualifier pour un huitième de finale de Coupe du Monde comme ça par hasard. Donc, on va prendre le temps. Ils ont été observés, même si j'ai vu la grande majorité du dernier match contre l'Allemagne. On va prendre le temps. Il y a 2 jours pour savourer. Après, on basculera de nouveau.
On vous laisse profiter. Merci encore. Merci. Didier, bravo, vraiment.
Voilà Didier Deschamps qu'on a entendu et qui
fera la grande différence.
Sa mère, bien sûr.
Oui. Ce qui fera la différence contre le Paraguay, s'il a vu le match et si lui faisait un parallèle avec l'appréciation des Allemands, c'est qu'il a bien vu que devant, les Allemands n'ont pas la moitié de la qualité que toi tu as. C'est tout, c'est clair, c'est net. C'est aussi pour ça que l'Allemagne, même s'ils ont dominé, même s'ils ont fait le siège de la surface, sans pour autant se créer d'énormes occasions, mais en tout cas ils étaient là, pressants, sans concrétisation, sans concrétiser quoi que ce soit. Mais ça n'a rien à voir quand tu as Mbappé qui est dans cet état-là, quand tu as la possibilité Barcola, Dembélé et Olise pour faire des passes. On parle pas de la même chose. En fait.
Je pense que cette qualité technique offensive, en cas de série de tirs au but, je pense qu'on est aussi supérieur aux Allemands dans la série de tirs au but.
T'imagines les pénaux contre Paraguay, toi ?
Non, mais je te le dis, ça peut servir dans la. Ça peut
je pense
servir.
Que la carte pénaux, elle n'est pas pour tout de suite.
Non, mais ça peut servir dans la compétition. Et tous les Parisiens qui sont là et qui les ont vécus avec Paris, là, notamment les.
Je veux ouvrir un gros dossier Mbappé dans quelques minutes. Mais d'abord, j'ouvre un dossier Deschamps. Et je pose la question à Samuel. Samuel, avant le mondial, avant la Coupe du Monde, on se posait la question et on se disait attention. Deschamps qui joue avec 4 offensifs comme ça, c'est pas son style, c'est contre nature. Pendant 10 ans, il n'a pas fait ça. Alors Jean-Louis va nous ressortir des stats avec des matchs où ça a déjà eu lieu, une compète ou deux où ça a déjà eu lieu. Mais là.
Bah, juste Deschamps dit qu'en 2022, c'était ça, il l'a encore dit hier, hein, qu'en 2022, déjà, il y avait 4 attaquants. Il y tient.
Bon, oui, mais c'est vrai. Mais dans le jeu, ça donnait pas cette impression-là.
Force est de reconnaître.
On est d'accord, Jean-Louis, ça donnait pas cette impression.
Bien sûr. Non mais c'est sûr. Griezmann et Olise, oui, c'est pas la même chose.
Ça marche. Ça marche. C'est gagné donc.
Est-ce qu'on avait le droit d'être perplexe quand quelqu'un t'a proposé? C'est comme si toi tu vas manger quelque part.
Mais j'ai même pas fini ce que je voulais dire.
Bah, si t'as dit ça marche. Non. Ça marche cette méthode. Ah bah, vas-y, termine.
Je veux dire. Et en plus, j'ai pas envie que ce soit toi qui parles. J'ai envie que ce soit Samuel parce que c'est à lui que je vais poser la question. Après, tu pourras parler. T'as le temps.
Ok.
Je crois que tu parles plus souvent que lui.
C'est bon, ils ont changé la photo de Samuel. C'est celle d'avant, j'aime pas, on a l'impression qu'il fait la tête, là, il sourit.
Non, il y a une belle photo, là.
Non, juste avant, il y avait une photo, il était moins bon.
On peut écouter ce qu'il a à dire. Merci.
Voilà. Merci, Samuel. Deschamps a fait une sorte de révolution personnelle, en quelque sorte, sur sa fin, parce que c'est sa dernière compétition. Et bon, dans l'after. Franchement, quand on en débattait, on n'y croyait pas trop. Est-ce que tu estimes, Samuel, qu'il a d'ores et déjà gagné son pari en la matière?
Bah, pour moi, c'est pas forcément un pari. C'est juste qu'il fait en fonction des joueurs qu'il a. Et ces joueurs-là, il les avait pas avant. Donc là, il a ce quatuor-là, même 5 joueurs qui sont capables de jouer.
De quel joueur tu parles? De quel joueur quand tu dis ça, tu parles de qui? Parce que Dembélé, il l'avait. Mbappé, il l'avait.
D'accord.
Okay. Olise, il l'avait pas.
Donc Olise, il l'avait pas. Olise, il l'avait. On va dire. Ok. Bah, non, justement, je suis en train de te dire Élisée, non, même si Griezmann avait ce rôle-là quand même.
Oui, mais non, mais c'est pas pareil. La manière de jouer d'Antoine, que j'adore, que j'admire, c'était pas du tout ce qu'on lui demandait. C'était pas ça.
Ben donc, attention à ce que tu viens de dire. Tu viens de dire, c'est pas ce qu'on lui demandait. Donc, ça veut dire qu'il y avait des consignes pour pas jouer de cette façon.
Mais c'est pas question de ça. C'est que les qualités d'Antoine Griezmann ne sont pas les mêmes que Michael Olise, ou peut-être moi je suis fou.
Non, mais c'est pour ça qu'à l'époque, quand il disait on jouait à 4 attaquants, Griezmann souvent jouait plus bas.
C'est un deuxième attaquant.
Mais c'est un attaquant, mais Olise, on sait très bien la qualité de passe qu'il a. C'est pas du tout, on va dire, ce qu'on recherchait avec Antoine Griezmann. C'était plus, il fallait qu'il soit à côté de son attaquant, Antoine. Mais là, c'est pas la même chose. C'est qu'on sait qu'on est capable d'avoir un joueur qui est capable de donner des passes que même nous, quand on a la télé, on ne voit même pas. Donc déjà ça, c'est un bien fou. Et ensuite sur les côtés, tu as des joueurs qui sont déjà bien plus expérimentés. Je parle d'Ousmane qui pour moi devient un peu plus mature. Et ça change totalement. Et que le Désiré Doué, qui est capable de rentrer, et le Bradley Barcola, ce ne sont pas les mêmes joueurs qu'il y a 4 ans, là. C'est pas les mêmes.
C'est pour ça que effectivement, l'équipe, c'est pour ça que je pense que l'équipe est plus forte. Et pour en revenir à la question initiale de Gilbert, moi, quand tu vas tout le temps manger à la même table et qu'on te sert tout le temps le même plat pendant 2012, 2022, ça fait 10 ans, on ajoute 2 ans, ça fait 12, ça fait 12 ans. Ben, moi j'ai du mal à croire que le gars va te préparer une recette innovante. Et la recette innovante, on m'a dit, elle est là. Ben moi je n'ai aucun mal à reconnaître que j'avais du mal à croire que ça pouvait arriver. D'ailleurs, la plupart des gens qui nous écoutent, pareil, se disent, mais vraiment il va faire ça? Mais vraiment on va y aller comme ça? Mais c'est possible quand t'as un ADN où toute ta vie t'as joué avec en mettant plutôt bloc médian ou bas et on est. Bah ok, moi je suis ravi de cette mutation, je suis ravi de ça.
Très bien, mais c'est ce qui se passe que quand t'es entraîneur, il y a des choses que tu vois, et même de les avoir au quotidien, même si c'est quasiment une fois tous les mois ou tous les deux mois qu'il les avait au rassemblement, il voyait certaines choses, il voit aussi certaines connexions, et il se disait là je pense que je peux me permettre d'oser et de faire différemment. Et avec ces joueurs là Et moi, je suis comme tout le monde. On est heureux de pouvoir voir ces quatre attaquants-là jouer, se connecter ensemble, marquer des buts, être décisif. Et ça, on l'a attendu, en tout cas, tellement de gens qui ont attendu d'avoir autant d'attaquants et de jouer de cette manière. Ouais. Donc, on peut être
sur Deschamps. Moi, je suis ravi de voir tout ça, mais je vais mettre un gros bémol. Et je suis pas certain que ce soit.
C'est la tradition.
C'est la tradition. Je suis pas du tout certain que ce soit toujours. Moi, je renie pas ce que j'ai dit avant, que ce soit la formule idéale, car pour moi, elle opère une forme de déséquilibre qui va être dure à gérer contre des nations supérieures, comme on l'a dit tout à l'heure, pas forcément en huitième de finale, mais à partir des quarts, comme vous l'avez dit. Je suis pas certain, et d'ailleurs Deschamps aura l'intelligence sans doute s'il le faut de s'adapter, qu'on ne reverra pas le 4-3-3, et je suis pas certain, ou du moins qu'il n'y aura pas un risque à ne pas vouloir absolument pas changer. Je pense qu'aujourd'hui
ça s'appelle de l'adaptation tactique après tout.
Non, mais je pense aujourd'hui que malgré tout, on peut très bien apprécier, relever qu'en tout cas ils ont cherché à travailler, à trouver les meilleures solutions, y compris remettre Dembélé à droite, etc., pour arriver à avoir l'efficacité actuelle. Et là, il y a rien à dire. Le début de Coupe du Monde, il est très bon, sans pour autant remettre en cause notre analyse, qui est que ce déséquilibre-là contre une vraie grosse équipe qui te fait du mal, il va être dur à tenir quand même. Donc moi, je maintiens que ça, c'est pas parce que tu mets 3-0 à la Suède en rigolant aujourd'hui que tu dis ok, non, c'est bon, il a gagné son pari. Non, mais je réponds à Jean-Louis Gébert, qui a dit qu'il a gagné son pari.
Le déséquilibre, il est où? Le
déséquilibre, il va être quand tu vas être challengé vraiment et que tu n'arrêtes pas de jouer à la 60e minute.
Mais comment
tu n'as pas vu le Maroc, par exemple, hier? Tu ne penses pas que le Maroc, c'est supérieur à la Suède?
Je parle de l'équipe de France. Là, ce n'est pas le Maroc.
D'accord. Donc tu penses que contre n'importe
quoi, je pense que
le Maroc, ils vont devoir subir la pression des Français. Ça va être autre chose.
Juste, Samuel, j'ai une question.
Mais ça n'a rien à voir. Les équipes qui vont jouer face à l'équipe. Quand elles viennent jouer face à l'équipe de France, elles viennent pas jouer de la même manière qu'elles vont jouer face au Maroc déjà.
Ouais.
Et donc pour moi, il y a déjà cette peur là, et que là on est en train de prédire, de se dire non mais il va avoir un déséquilibre. Mais quel déséquilibre? T'as les deux milieux de terrain qui sont là.
Donc tu penses que ce système là, il est bon pour n'importe quelle équipe en Coupe du Monde?
Mais bien sûr.
On est
totalement capable de le jouer. Je me dis qu'il est
Bradley Barcola en direct, s'il vous plaît. On va l'écouter. Il est avec Fabrice Hawkins. Vas-y, Fabrice.
Ouais, Bradley, c'est un très grand match. En tout cas, deuxième but, encore une fois pour toi, une passe décisive. Tu pouvais pas rêver mieux.
Ouais, non, c'était. Je savais que ça allait être une très belle compétition à jouer, mais. Et je suis très content de ce que je fais pour l'instant, donc j'espère que ça va continuer.
Parle-nous de ce potentiel offensif, de la manière dont vous vous régalez avec Michael Olise, avec Kylian Mbappé, avec Ousmane Dembélé, que tu connais bien.
Non, c'est incroyable de jouer avec eux. On sait que c'est des top joueurs, et avoir cette connexion avec eux, c'est magnifique. Ouais.
Tu t'en as rêvé de marquer des buts comme ça en Coupe du Monde? T'en es déjà à deux. La rentrée face au Sénégal qui a été assez tonitruante, là ce match face à la Suède. Est-ce que tu t'imaginais faire cette Coupe du Monde-là?
Non, honnêtement, je n'imaginais pas forcément, mais je suis vraiment content de ce que j'arrive à faire pour l'instant. Pour ça, j'espère que ça va vraiment continuer, et tant que je peux aider l'équipe, c'est le mieux.
Comment voilà pour Bradley Barcola qui était avec nous. Jean-Louis, tu voulais donner ton avis aussi là sur cette révolution Deschamps.
Il y a plusieurs trucs que je veux dire. Déjà, effectivement, On ne sait pas ce que ça donnera forcément. En tout cas, on n'a pas de certitude contre les grosses équipes. Mais déjà, ce qu'on voit sur les petits matchs, entre guillemets, on le voyait pas avant. Et rien que pour ça, je trouve que cette révolution est quasiment gagnée. Rappelez-vous de l'Euro. L'Euro 2024, il n'y a pas si longtemps. Les adversaires au premier tour, c'était compliqué et on a fait des matchs abominables. Je pense qu'à cet Euro, il y a eu une prise de conscience de Deschamps. Je pense d'ailleurs qu'il ne l'avouera jamais, mais j'en suis convaincu. Il a eu une prise de conscience de se dire, je peux pas finir comme ça.
Ma méthode historique finira pas, ça ne peut pas continuer.
On fait demi-finale d'Euro en jouant de façon horrible, mais ça ne suffit plus, le résultat ne suffit plus, et je pense que Deschamps en a pris conscience. Parce que l'histoire de « on a un potentiel qu'on n'a jamais eu avant », je suis pas tout à fait d'accord, je vais un peu le tempérer, parce qu'on a eu des phases aussi où on avait beaucoup d'attaquants. Il y a une phase où, mais que Deschamps n'arrivait pas à faire jouer ensemble.
Bah, t'as Benzema, possibilité de Benzema, Griezmann, Mbappé ensemble hein, quand même. Hein.
Rien que 2022, Griezmann, Giroud, Mbappé, Dembélé, ça donne pas la même chose. Donc on l'a dit tout à l'heure, malgré les quatre attaquants.
Oui, mais c'est pas pareil, là.
Il y a une phase où Coman était monstrueux au Bayern, il n'arrivait pas à l'incorporer. Et je trouve que comme Deschamps n'arrivait pas à faire ses liens offensifs, eh ben il revenait à sa méthode un peu traditionnelle.
Je suis d'accord avec toi, Jean-Louis.
Jamais donc là, le, pas d'accord. Donc là, le,
Samuel,
le quatuor là dont tu parles, de Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Kylian et Ousmane, c'est pour vous, vous pouvez le comparer à ce qui se fait actuellement là?
Non, non, mais juste que par exemple,
il t'a cité d'autres, noms. Il y avait d'autres noms. En équipe de France, on a eu Kingsley Coman qui était énorme au Bayern à l'époque, qui jamais n'a réellement percé en équipe de France. Il y en a eu des joueurs offensifs. On découvre pas maintenant. On a joué avec Marcus Thuram ailier gauche. On a joué avec Marcus Thuram milieu ailier gauche. Il y a eu des choses un peu folles dans les compos quand même.
Pour moi. Non, il y a d'accord, pas de souci. Mais en tout cas, pour moi, il y a eu des très grands joueurs. Oui, Kingsley, Karim, tout. Il n'y a pas de souci. Mais là, d'avoir là ce quatuor-là offensif, c'est du jamais vu pour moi. En équipe de France, c'est du jamais vu.
Tu veux dire en termes de qualité, c'est ça que tu veux dire? En termes de complémentarité
de qualité offensive, ça rien. Bah oui, c'est.
Pour oui, moi, mais
ça
parce rien que Deschamps aussi, Sam, a laissé ces joueurs-là. Depuis un an, il les fait jouer ensemble. Il a laissé le truc se créer aussi. Et il a travaillé ces trucs offensifs, tu vois. C'est pas que le niveau individuel de tous les mecs, je pense, qu'il faut mettre en avant.
Moi, il y a un truc, en tout cas, sur le style de
non,
jeu.
Non, t'es pas d'accord avec ça?
Attends, Florent.
Non, mais si Samuel veut répondre, je m'intercale. Juste sur le profil des joueurs, là où je rejoins Samuel, c'est que, et d'ailleurs, ça en fait une autre équipe. Parce qu'avec Giroud, et moi, j'aimais bien l'idée du profil différent, tu sais, parfois, qui te permet de te sauver d'autres situations et dans certains matchs particuliers. Ça, c'est vrai qu'on l'a, plus, ou on l'a sur le banc, on va dire, avec Mateta. Mais en fait, on joue différemment. J'avais presque envie de te dire, plus à l'espagnol qu'avant. C'est-à-dire qu'on a que des joueurs techniques. On va pas te mettre des centres et des buts de la tête, mais en revanche, on va te déséquilibrer n'importe quelle équipe avec du jeu court, de la technique. Et ça, c'est vrai que ces joueurs-là, cette qualité-là, avec quand même un Dembélé ballon d'or. Quand même, faut quand même voir ça. Mbappé, on sait ce qu'est Mbappé quand même dans le monde du foot. Et la découverte, c'est Olise. Parce qu'après, les deux du PSG, Barcola, Doué, eh ben, c'est très, très fort. Mais ça, quelque part, dans le réservoir qu'a cité Jean-Louis, on a déjà eu des joueurs très, très forts côté. Peut-être pas au niveau de Doué dans sa finale Ligue des Champions 2025, mais on a eu ça. En revanche, de récupérer un Olise, un peu tombé du ciel, comme on l'a dit en début de Coupe du Monde, qui se complète avec ces deux grands joueurs, l'un qui s'est révélé avec le Paris Saint-Germain et qui a fait sa révolution, à savoir Dembélé, et l'autre Mbappé qu'on connaît par cœur. Ça, oui, comme je suis d'accord avec Samuel, je pense pas qu'on l'ait eu, même dans les grands moments de l'équipe de France. On a eu autre chose, on a eu des complémentarités intéressantes, on a eu même des profils différents avec Giroud, mais cette qualité-là, technique, en jeu court, en menace pour l'adversaire, quand on voit, même sur le but d'Mbappé, la passe et la remise de Dembélé, qui d'ailleurs se retrouve côté gauche à ce moment-là, tu sais, sur le petit corner, jouer rapidement. Oui, toutes ces choses-là
Griezmann, Mbappé et Benzema, c'était quand même à l'Euro 2021 un truc énorme.
Bien sûr que c'était énorme.
Non, mais c'était pas que c'était pas
avec
énorme.
Avec Pogba au milieu, qui était très bon, enfin quand même, quoi. Non, c'est juste.
Mais ça n'a rien à voir parce que ça n'avait pas été travaillé en fait. Benzema, il est arrivé.
Hein, vas-y. J'ai dit ça, Samuel, je comprends pas pourquoi tu veux pas reconnaître que Deschamps a pu modifier son approche et la façon qu'il avait très restrictive de voir le foot et que là, d'un coup, il bascule dans quelque chose de plus lâcher prise.
C'est pas un problème. Je suis totalement d'accord avec ça, qu'il a totalement changé. Mais moi, les raisons
que je pense, ce ne sont pas les mêmes que les vôtres, c'est tout. Moi, je pense
toi,
pas.
Toi, tu dis, c'est vraiment la qualité.
Il aurait pu.
La qualité.
Non, mais non, ouais. c'est pas ça. C'est pas la qualité des joueurs. Je pense que oui, peut-être, il aurait pu travailler un peu plus avec ses joueurs pour avoir, on va dire, cette connexion comme là, il y a actuellement. Il y a pas de souci. Mais je pense que de me parler de, en fait, j'aime pas du tout comparer. C'est, je pense que à cette période-là, avec ces joueurs-là, on n'aurait pas pu leur demander les mêmes choses. En tout cas, les mêmes attentes, en tout cas, qu'il y a avec ces joueurs-là. Même si Karim, c'est un numéro 9, incroyable. Grizzly, pour moi, c'est un joueur électron libre. C'est même pas vraiment un numéro 10. Alors que là, t'as un numéro 10, t'as un ailier. C'est pour ça que je dis que c'est différent. Mais je suis d'accord avec vous que si peut-être que l'équipe avait travaillé un peu plus sur cette connexion des trois devant, peut-être que ça aurait marché. Je sais pas.
En tout cas, ce qui est intéressant de voir, vous avez cité l'Euro 2024. Ce qui vraiment m'intéresse, c'est même nous, dans le ressenti qu'on a quand on suit les matchs ici. On prend un plaisir dingue, alors que je me souviens, et on nous traitait de rabat-joie à l'époque, alors qu'on avait raison. Tu te rappelles, Jean-Louis, on faisait bien des analyses, on gagnait. Et derrière, nous, on était volontairement, parce que c'était notre job et c'était la vérité, parce qu'on s'emmerdait devant les matchs. On nous disait, ouais, vous comprenez rien, parce qu'on récupérait tous les footix qui regardent les matchs tous les deux ans. Mmh. Alors que là, on est tous sur la même longueur d'onde. Il n'y a aucun souci. On est content de voir jouer cette équipe de France.
Bien
de
sûr,
cette
là, manière. Là, on
donc
se régale.
Là, il faut
on
que ce soit régale. Clair, parce que les gens te disent, vous coupez les cheveux en quatre. Non, non, non. Là, on est content, en tout cas, de voir jouer comme ça. Alors qu'en 2024, on disait, OK, ça gagne. Mais en fait, il y a aucun intérêt.
2024, c'était terrible.
C'était horrible.
2024, c'était terrible.
Deschamps disait, si vous n'êtes pas content, zappez hein, en 2024.
Exact.
Hein. Faut pas l'oublier, ça. Hein.
Ouais, bon, bref, tout ça pour dire qu'on est ravis maintenant et que ça peut avoir été poussé.
Daniel, elle a commencé ta Coupe du Monde, ça y est, là, parce que hier, tu n'avais pas commencé.
Non, elle a commencé hier.
Elle a commencé hier.
Hier, on a commencé à voir les matchs à élimination directe. Bon, le premier, celui du Canada moyen. Le Brésil-Japon, t'as enchaîné avec l'Allemagne-Paraguay. En fanfare, le Pays-Bas-Maroc a été un vrai gros match. D'ailleurs, on l'a vu ensemble, donc tu sais très bien que j'ai kiffé. On est se couché tard, d'ailleurs, avec les pénaux et tout, là.
Oui, enfin, attends, moi, quand j'ai vu, Gilbert était déjà parti se coucher. Hein,
alors, non, il était là. Regardez, j'ai juste le pénaux sur la terrasse.
Et je veux dire que j'étais très heureux du résultat, d'ailleurs. Kevin est là au 32-16. Kevin, bonsoir. Merci d'avoir patienté.
Bonsoir à tous.
Salut, Kevin.
Kevin, est-ce que tu es d'accord avec ce qu'on a dit jusque-là sur l'équipe de France, sur la révolution Deschamps, avant qu'on parle de Mbappé dans quelques minutes?
Oui, complètement. Bah déjà, je suis très content. C'est la première fois que je passe à l'antenne. Je vous écoute tous les matins en podcast. Vous démarrez ma journée.
Ça marche bien les podcasts en ce moment, Kevin?
Ah ouais, franchement, moi je prends du plaisir. Ça me permet de savoir ce qui s'est passé pendant la nuit.
Très bien. T'arrives à les trouver facilement? Tout va bien?
Tout va bien. C'est parfait. Super. Ça dynamise ma journée quand je vous entends vous énerver, vous écharper. C'est parfait.
Super, Kevin.
Tu les regardes sur quelle plateforme?
Non, sur RMC directement.
Et RMC directement, par
excellent choix.
À la boutique.
Très bon choix.
À la boutique.
Bon, alors, tu veux parler de l'équipe de France ou de Deschamps?
Ça va de pair, hein, j'ai envie de dire.
Ça va de pair,
déjà, en tant que supporter lensois, j'ai passé une année de fou. Je pense qu'avec l'équipe de France, je vais passer un bel été parce que.
Oh, tu peux faire un bouquet final, là. Tu peux faire quelque chose de fort, là. T'avais le gâteau, tu veux la chantilly, les fruits.
J'étais au Stade de France en plus pour la finale, donc franchement, en termes d'émotion, c'était le top. Et là, je pense que vraiment, avec cette équipe, je prends vraiment quand même beaucoup de plaisir. Enfin, je sais pas si on se rend compte maintenant, parce qu'on n'a pas encore eu une adversité de fou, mais je trouve que sur le match d'aujourd'hui, on a même encore passé un gap sur l'animation offensive, parce que là, les quatre joueurs sont concernés. Là, pour le coup, je pense que c'est Dembélé qui fait la passe pour Mbappé et Olise qui fait la passe pour Barcola. Donc, les quatre joueurs sont concernés aujourd'hui. Et le sentiment que j'ai eu sur le match, tu l'as évoqué, je pense, Daniel, c'est que cette équipe, on dirait qu'elle en a encore un petit peu sous la chaussure. Et moi, j'ai hâte de la voir avec une adversité un peu plus forte.
Oui, tu veux dire dans la bagarre, sa réaction dans la bagarre?
Ouais, dans la bagarre et même dans l'intensité. On voit en première mi-temps, ça...
Oui, c'est ce que je voulais dire, dans l'intensité. Quoi, c'était pour moi, c'était ça que je sous-entendais. Oui, je suis d'accord avec toi.
Et après,
on a presque envie d'avancer. On est impatient. Je suis impatient de voir.
Tranquille, profite. Là, t'as le Paraguay. Hop, ça va.
Tranquille, frère. Alors, écoute. Si. Moi, je suis un impatient. Je l'assume. Bah, moi, ce match contre le Paraguay, il m'emmerde.
Ben non.
Ah, ils m'emmerdent. Ben voilà,
non.
Magnifique.
Moi, je veux voir tout. Moi. Non. Le remake du 8e 98.
Daniel a un souci. Sa Coupe du Monde a commencé hier soir. La nôtre a commencé le 11 juin.
Bien sûr.
T'as raté 15 jours, mec.
Écoute,
t'as raté 15 jours.
Mais tu sais, dans la vie, on n'est pas tous exigeants. Voilà, moi, je suis exigeant. Je cultive cet état d'esprit. Tu sais très bien.
C'est court, quand même.
Tu sais très bien que je me contente du meilleur.
Bon, on va parler de Mbappé, les gars. Kevin, merci en tout cas. Et puis, rappelle quand tu veux, maintenant que tu connais le chemin.
Avec plaisir, mais j'avais une petite question pour Flo, très rapide, si j'ai le temps.
Oui, bien sûr, il est là, il t'écoute.
Vas-y. Je t'écoute.
Flo, tu disais un truc intéressant, c'est vrai. Alors, on se projette un peu potentiellement sur le Maroc et sur l'Espagne en quart et en demi, parce que je vois vraiment pas le Paraguay nous résister, surtout que, à mon avis, ils vont être aussi cramés de leur débauche d'énergie contre l'Allemagne. Tu disais que, en effet, on va peut-être tomber sur des équipes qui tiennent un peu plus le ballon, qui pourraient peut-être nous mettre un peu plus en difficulté. Mais à l'inverse, est-ce que ces équipes, elles seraient capables de supporter des transitions qu'on va leur imposer avec nos quatre fantastiques?
Exactement, écoute, je suis d'accord avec
toi. Je n'ai pas la réponse. Je posais la question et j'attends de voir les matchs pour avoir la réponse. Mais je pense simplement.
Non,
alors tu as raison. Je pense que le pouvoir offensif, comme disait Daniel dans une émission précédente, finalement, si ça te permet de mettre un but de plus que l'adversaire, ça peut être suffisant. Mais moi, ce que j'ai envie de voir aussi, pour voir un vrai match de foot, qui était un peu le cas des 20 premières minutes, c'est de voir une équipe, la nôtre, challenger aussi, défensivement, pour voir comment ça résiste. Et après, comment tu t'en sors, effectivement, à la fois défensivement, et Samuel, là-dessus, connaît par cœur ce secteur-là, et pour effectivement, derrière, aller faire mal, t'as raison, on leur fera mal et ça y a aucun souci. Je veux juste voir si quand nous on nous fait mal, comme là un petit peu pendant 20 minutes, j'étais même un peu surpris de voir sur certaines courses au début Isaac et autres qui étaient très forts, même en vitesse pour prendre les ballons en premier, pour voilà sur les petits moments où tu étais challengé. J'ai envie de voir ça. Maintenant, envie de voir un match un peu plus, on va dire, disputé, quoi, pour ainsi dire.
Kevin, merci beaucoup une nouvelle fois. On va parler de Mbappé. Mais juste avant, Lucas Digne. C'était il y a quelques instants. Première réaction après la victoire. Il est avec Fabrice Hawkins.
On a fait une performance complète du début à la fin du match et c'est ce qu'on était venu chercher et on a montré une très belle image ce soir.
Lucas, on a vraiment l'impression qu'il y a un potentiel exceptionnel, en tout cas depuis nos sièges dans le stade, les Français depuis devant leur télé, on a l'impression qu'il ne peut rien vous arriver offensivement. Est-ce que sur le terrain, vous avez aussi cette sensation de surpuissance?
Non, ils ont une connexion extraordinaire devant. Maintenant, c'est aussi parce qu'ils font les efforts défensifs et on a un bloc qui est très compact. On l'a vu ce soir et c'est pour ça que tout est très homogène, on va dire.
Est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes une équipe aujourd'hui qui fait peur? Un peu comme Rafael Nadal à Roland Garros dans le tunnel. Tout le monde vous regarde avec les gros yeux.
On n'y prête pas forcément attention. Nous, on se concentre vraiment sur.
On joue pas.
Non. On joue notre match. On joue de la manière dont on a envie de jouer. Et c'est ce qu'on fait depuis le début. Et c'est pour ça que ça marche. Tout le monde tire vers le haut cette équipe. Et c'est pour ça que ça fonctionne aussi bien.
Un mot sur Kylian Mbappé. Encore un doublé.
Ouais, non, il est incroyable. Il est dans une forme incroyable. Il fait les efforts pour l'équipe. Il montre l'exemple comme un vrai capitaine qu'il est en dehors et sur le terrain. Donc non, il faut qu'il continue comme ça.
Voilà pour Lucas Digne qui parle justement de Kylian Mbappé. Et là,
juste un mot.
Arrêtez de couper la parole dès que je la récupère.
C'est vrai,
insupportable.
Non, mais c'est pour plutôt respecter.
Monsieur Gautreau, c'est insupportable.
Je préfère vous le dire. Non, mais le nouveau chapitre qui va s'ouvrir.
Et en plus, il lâche pas l'affaire.
Non, mais le nouveau chapitre qui va s'ouvrir.
Laisse-le insister. Il a besoin. Vas-y.
J'avais donné une stat Opta pour le match, pour montrer la dinguerie de ce match. Pour terminer, après, on parlera d'Mbappé. C'est pour pas mélanger.
Comme je suis sympa, je lui laisse la parole.
En fait, ils ont tiré 25 fois les Français, c'est une stat Opta, et ça n'était pas arrivé en Coupe du Monde depuis le France-Paraguay de 8e de finale en 98.
25 tirs. C'est autant qu'une journée de Ligue 1. Enfin, vous le dire.
Ah, t'es dur.
T'es très dur.
Bon,
t'es dur.
Presque.
Voilà. Mbappé. Tu as la parole.
Mbappé, Samuel. On a l'impression qu'il a retrouvé une vitesse qu'il n'avait plus depuis quelques. J'allais dire quelques années peut-être. Peut-être que j'exagère.
Je ne suis pas d'accord.
En tout cas, il a retrouvé une vitesse.
Premier point, je ne suis pas d'accord.
Moi non. Deux. Il s'impose définitivement comme une sorte de taulier, grand frère, capitaine, comment dirais-je, installé. Ce qui n'était pas forcément le cas avant, on se souvient, les histoires avec Griezmann et tout.
Ok, ça oui.
Trois, les stats parlent pour lui. Là, il en est donc à 18 buts, juste un but.
Les stats ont toujours parlé pour lui, je ne suis pas d'accord avec ce dernier point.
Un but de moins que
Messi. C'est Daniel, je
sais pas. Il est meilleur buteur là, avec Messi, avec 6 buts. Mon cher Samuel, est-ce que Kylian Mbappé a retrouvé son statut qu'il a perdu finalement assez peu longtemps de meilleur joueur du monde?
Après ça, pour moi, meilleur joueur du monde, c'est encore, c'est quelque chose.
Je sais, c'est un peu mon délire.
Mais voilà, c'est pas du tout mon délire, mais je dis qu'il a, pour moi, c'est, il met tout le monde d'accord et que dernièrement, ce qu'il a reçu, moi, ça m'a fait quelque chose parce que je pense pas qu'il méritait tout ça.
Et là, ce qu'il a pris dans la tronche, que ce soit en France, en Espagne,
en France, partout. Et qu'il méritait pas ça. Et au final, quand on parle de foot et que là, on est en train de se concentrer sur ça, sur cette Coupe du Monde, il est irréprochable. Et même son état d'esprit, a peut-être évolué, changé en bien. On parle de sa manière de maintenant défendre, d'aider son, le collectif. Il a pris conscience que c'était le leader, donc il devait aussi faire ces efforts-là. Ok, pour moi, il a changé ça, il a évolué, il a compris certaines choses. Et c'est
quand
très
bien même, que ça quand bien maintenant. Même, Samuel, et quand bien même, ce que tu dis sur les modifications dont tu parles qu'on constate. Oui, bien sûr, je suis d'accord avec toi.
Mais ça a toujours été pour moi le...
Mais ce qui s'est passé et ce qui continuera de se passer, c'était inadmissible. Il a été dit des choses complètement aberrantes.
Il met 40 buts, on vient dire que
c'est
de sa
faute. Et on sait pourquoi elles ont été dites et on sait d'où elles venaient. Oui. Et on sait la façon dont ça a été instrumentalisé par les réseaux. Ça a été un acharnement.
Là, tu dénonces. Ouais, ça a été un acharnement
comme rarement vu.
Parce que c'est que sur X.
Sur un joueur de foot. Et les aberrations qu'on entendait sur il est parti du PSG, le PSG gagne ou le Real. Tout ça, mais il suffit juste d'être un minimum intelligent, de regarder les contextes, de regarder ce qui se passait, de regarder comment été géré les clubs, mais qu'est-ce que tu pouvais lui imputer à lui là-dessus alors qu'il y ait deux trois modifs dans son jeu. De quoi ?
Les gens ne prennent pas le temps de penser comme toi, comme ça, de se dire ça. Ils prennent pas le temps, c'est qu'il y en a un ou deux qui vont commencer à dire certaines choses, et voilà, donc la sauce va prendre et tout le monde va commencer à penser certaines choses qui sont totalement fausses. Mais là, au final, sur cette compétition, on se concentre que sur du football, et là, quand on voit ce qu'il est en train de faire, qui va dire quelque chose ? Personne.
Ce que les derniers haters vont dire, c'est que pour l'instant les Bleus n'ont joué personne, que la Coupe du Monde c'est une compétition. Mais en fait, moi, ce que j'aimerais qu'on retienne, Samuel, puisque les gens parlaient de lui en tant qu'humain et que beaucoup de reproches étaient faits à ce niveau-là, ce gars-là est le leader de cette équipe. Au-delà de bien jouer, de mettre les buts qu'il met, il les met tout le temps, les buts. Donc, c'est pas les stats à l'élite, je m'en fous. Mais cette équipe, elle est derrière lui. Les joueurs l'aiment. Il est comme, on entend, c'est le mot qui est à la mode désormais dans cette équipe de France, la mission. Deschamps utilise ce mot, Mbappé utilise ce mot, beaucoup de joueurs utilisent ce mot. Dembélé, qui est la star du club, dont les supporters sont les plus grands haters de Kylian Mbappé, qui ont créé un harcèlement numérique comme rarement on a vu. Eh bien, le joueur phare de ce PSG-là est le meilleur ami du mec qu'il déteste. Arrêtez, essayez de retrouver votre cerveau. Ce qui a été fait, ce qui a été dit, c'est une aberration. C'est le leader de cette équipe et tout le monde l'aime dans le groupe. Alors, stop à un moment.
Alors, moi, juste un truc.
Flo et ensuite Jean-Louis vu du stade.
Moi, je veux juste revenir quand même et dézoomer un peu. Je suis pas totalement d'accord, non pas sur tout ce que vous dites sur la tonne de merde qu'il a reçue. Et là, je suis d'accord avec Samuel et toi pour dire que c'était totalement infâme et disproportionné et souvent faux. En revanche, on a le droit de constater que lui aussi a progressé dans certains niveaux. Il est un meilleur
Samuel
capitaine.
Samuel l'a dit, j'ai dit que j'étais d'accord.
Il est un meilleur capitaine qu'il n'a été. Il n'a pas eu ce rôle toujours aussi collectif qu'il l'est maintenant. Tu as dit, il est leader. Il n'a pas été ce leader-là tout le temps depuis deux ans par rapport à maintenant. Non, mais c'est important de signaler. Digne a dit, par exemple, il fait les efforts pour l'équipe. Tu sais, cette phrase-là. Ce qui lui est reproché.
Mais ça, il l'a dit, ça, Samuel.
Je suis d'accord, mais ce qui lui est reproché, par exemple, oublions les haters qui le détestent. Ce qui lui était reproché techniquement parfois, enfin, tactiquement plutôt, c'était de dire, est-ce qu'il pourrait pas faire un peu plus d'efforts? Bon, là, clairement, effectivement, il est dans cet état d'esprit-là également. Donc, on a le droit de dire qu'à un moment donné, il ne le faisait pas autant. Donc, et que maintenant, il le fait, tout en étant très fort.
Mais ça, on l'a tous dit.
Non, mais tu veux dire que les. C'est pas forcément un hater quand tu dis.
Non, mais.
Quand tu dis qu'il n'a pas touché ses performances, c'est Mobutu, c'est relativiser ses performances.
Moi, je te parle de ça.
Revenons un peu au terrain, les gars.
Cette horreur-là, que vont faire les gens qui l'ont sali à ce point ? Dans les émissions.
Pas trop en parler, Daniel.
Mais il n'y a pas que les mecs sur les réseaux. Il y a des gens dans des émissions de télé. Il y a des gens dans des émissions de radio qui ont bavé comme c'est pas possible.
Ouais, d'accord, mais je préfère.
Dans toutes les émissions, on dit des choses absolument horribles. Non, mais Daniel, avec l'ignorance de ne pas considérer que le Real, c'était une équipe qui avait beaucoup baissé au milieu en défense.
Je préfère retenir un truc, c'est de voir que lui-même, Mbappé, en dehors de toute cette polémique, il a su aussi s'élever collectivement, s'élever en tant que capitaine, s'élever en tant que joueur qui a envie de défendre.
Mais quand on l'a fait jouer dans un PSG,
je suis pas sûr qu'il a eu toujours cette attitude là.
Quand on l'a fait jouer dans un PSG construit avec Neymar, Messi et pas de milieu de terrain, qu'est-ce qu'on pouvait faire ?
Il a pas toujours eu cette attitude là à ce point de vouloir se remettre en cause, en question.
Reparlons du match de ce soir
en répondant à son frère.
Reparlons du match de ce soir.
Jean-Louis, on est d'accord sur ce point.
Raconte-nous Mbappé vu du stade.
Alors écoute, moi le truc qui me marque, et ça avait déjà été le cas sur le match d'avant, mais ça va dans le sens de votre discussion, c'est que j'ai l'impression que maintenant il respecte le jeu. Et c'est-à-dire que avant il jouait un peu pour lui, certaines actions, on disait mais pourquoi il va tenter cette frappe forcée, etc.
Exact.
Là il fait ce que le jeu lui dicte et c'est une nouveauté. Et ça va dans le sens de ce que vous dites, ça va dans le sens de l'enquête qu'a fait Fabrice Oquim, qu'on a mis sur le site internet aujourd'hui.
C'est peut-être aussi parce qu'il est épanoui, bien sûr, que dans Daniel, certains clubs il n'était pas. Eh ben, parce que les autres, soit les autres ne jouaient pas, parce que c'est pas le seul responsable de tout. C'est pas le seul responsable de tout, notamment en Real.
Non, non, mais bien sûr. Et je pense notamment à l'action pour Olise, où c'est Olise qui lui fait signe, mais mets-la-moi en profondeur, et c'est ce qu'il fait parfaitement. Là, quand il avait autant d'espace, je suis pas sûr qu'il l'aurait fait auparavant. Donc ça, tout ça, c'est parfait. Donc ce que je vous disais, l'enquête de Fabrice Hawkins qui montre que c'est ce qui se dit en interne aussi. Maintenant, il ne pense plus à ses performances individuelles d'abord, il pense surtout à l'équipe. Et puis, tu disais que c'est le guide, etc. Le grand frère, il a fait des cadeaux à tout le monde. Donc voilà, et sur la vie de groupe, il est irréprochable. Et sur le jeu collectif, je trouve que c'est une vraie nouveauté notable.
Un dernier point sur le besoin de concentration, de calme, d'unité. Tu l'as dans des configurations comme ça, tu sais où tu es un peu, et Samuel, c'est ça, même s'il faut des fois sortir de l'hôtel et c'est un plaisir, mais tu sais, tu es dans ton groupe, tu es au calme, tu es un peu loin de toute l'agitation qu'il a pu avoir, comme on l'a dit, en France avant son départ, et le côté commando et mission se retrouve encore plus dans ce calme, dans cette unité. Donc je trouve que l'idée d'un tournoi se prête bien aussi à ce qu'il soit le leader là sur 3 semaines, 1 mois, tu vois, qui amène vraiment ses soldats en mission, quoi.
Dans un instant, ouais. Axel au 32-16 pour réagir.
Si je bosse au Real, j'essaye de construire une équipe et j'essaye de me dire profitons au maximum de ce mec-là quand même.
Bon, Jean-Louis, on est obligé de te laisser alors.
Oui. Faut que j'y aille. Et juste sur l'évaluation, n'oubliez pas le duo Saliba ou Upamecano, c'est quand même monstrueux. On parle des 4 devant et tout, mais les 2 derrière, c'est énorme.
On va faire une évaluation complète.
Allez, ciao.
Mais qui est cette personne qui, à chaque fois, tu veux te mettre dehors du stade, là?
C'est quelqu'un qui est très sympa, mais après, je suis tout seul, hein, Gilbert. Donc, je suis le seul déjà à pousser.
Il faut bien partir du stade au bout d'un moment.
Mais voilà.
Nous, il y a des médias qui bossent. Ils font quoi, les autres?
Ils bossent à l'intérieur.
Exactement. Il y a un média center et voilà.
Voilà. Sam, il connaît. Voilà.
Sam, il va nous apprendre la vie. Samuel, avant, il était dans les vestiaires. Maintenant, il nous explique comment ça marche pour les médias.
C'est ce que je suis en train de vivre, hein, vous savez.
Allez, dans un instant, on y va tout de suite. Non, petite pause, allez. Et ensuite, Axel au 32-16 pour finir sur Mbappé. Ensuite, il y aura une évaluation complète, évidemment, d'autres réactions. On entendra notamment Aurélien Tchouaméni tout à l'heure.
L'Afterfoot, intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Bribois.
Il est 1h50 du matin en France. Si vous écoutez l'After, si vous êtes sur la chaîne YouTube de l'After, si vous êtes sur RMC, on est là en direct évidemment jusqu'à 5h du matin dans la nuit de l'After.
Il paraît qu'il y a du monde sur YouTube.
Il est 19h50 ici dans le studio new-yorkais de
l'After. On a rempli la salle.
Tu veux que je te dise là exactement? Là, on est toujours à plus de 10 000 en direct sur YouTube. C'est bon.
Tiens, pour finir sur Mbappé, il y avait une stat toujours au tard.
J'ai pas fini.
Alors j'ai pas fini. Ah, pardon.
Non, je voulais dire qu'il y avait un match dans une heure.
Ouais.
N'oubliez pas, dans 1h10, le dernier 16e entre le Mexique et l'Équateur, ce sera sur RMC. Donc sur Mbappé.
Non, sur Mbappé, la stat en dehors des 18 matchs, en 18 buts, en 18 matchs de Coupe du Monde, ce qui est quand même un peu délirant. Au passage, il a donc définitivement dépassé Klose et égalé Messi, c'est ça, si je ne m'abuse. Il a 10 buts en phase d'élimination directe, dans les matchs phase d'élimination directe. C'est plus que Léonidas.
On te dit que les records, il veut pas. Et toi, non, mais moi,
lui, il ne veut pas, mais nous, on a le droit de les regarder. C'est un Brésilien, Léonidas, qui avait ce record avant. Donc voilà, il a battu aussi ce record-là.
Léonidas, c'était en 38. Hein.
Ouais, puis il mangeait des chocolats.
Non, il les a fait après. C'est après qu'il a monté l'entreprise.
Ouais, il est monté.
D'abord, il a joué au foot.
Il est dopé au chocolat.
Il a monté l'entreprise.
Alors, sachez que Léonidas, en 38, a joué au stade de la Méno à Strasbourg.
Mais non.
Si. Match du Brésil. Et il pleuvait, donc il y avait de la boue. Et Léonidas, en cours de match, a enlevé ses chaussures et il a joué une partie du match pieds nus.
Ah, d'accord.
Ok, super.
Voilà.
Belle anecdote.
Histoire brésilienne.
Ça fait partie des sportifs pieds nus comme Zola Bud.
Voilà. Ou au Bikila. ABB.
Le marathonien.
1960, Rome qui gagne, l'Éthiopien qui gagne. C'est Bikila.
Bikila.
Ouais. ABB Bikila.
ABB Bikila.
Okay. Voilà. Sportif pieds nus. Sur Mbappé, Axel est là au 32-16. Salut Axel.
Salut, bonsoir à tous.
Bonsoir Axel.
Bonsoir. Déjà, merci de me faire monter. Samuel, merci pour 2018. On n'oubliera jamais.
Okay. De rien, avec plaisir.
Merci. Juste par rapport, je reviens tout à l'heure à ce que vous disiez sur la qualité des joueurs, le débat tout à l'heure entre Samuel et Daniel. Moi, je suis un 95, on va dire, j'ai commencé à suivre le foot 2006, pour de vrai, avec la Coupe du Monde, etc. Je regarde beaucoup de foot, etc. Je pense qu'en sélection, j'ai jamais vu une équipe avec trois potentiels ballons d'or qui mènent le trio d'attaque. Je parle de trio, pas de quatuor, parce que je mets Barcola et Doué un petit peu en retrait, même si ça reste des très, très bons joueurs. Mais je sais pas si vous, dans votre, avec vos connaissances, vous avez déjà vu ça. Là, si la France gagne la Coupe du Monde, on a trois favoris offensifs, donc trois attaquants offensifs qui peuvent prendre le ballon d'or. Je pense que c'est du jamais vu. Je sais pas si dans l'histoire ça a déjà été fait. Donc, sans manquer de respect à Griezmann, Benzema et Mbappé aussi à l'époque, on est à un cran au-dessus. Alors, effectivement, faut des confirmations.
Quand t'avais Ronaldinho, Ronaldo, ouais. Rivaldo, non, par exemple, dans la même équipe.
Excuse-moi, tu peux pas dire qu'ils sont super forts et tout, mais le Benzema, qui était justement Ballon d'Or, qui était 2021, Star Royal, le Mbappé et le Griezmann, qui à ce moment-là était au sommet, tu peux pas dire que c'était inférieur quand même. C'était du très
bon. Benzema, Giroud, Umtiti, c'était Ballon d'Or potentiel.
T'avais Pogba au milieu qui était également excellent. Non, quand même, t'avais du lourd quand même, Léo.
Je remets pas en question, etc. Mais Griezmann, très très bon joueur dans un autre registre. La saison que faut.
Allez, les gars, vous n'allez pas mettre Griezmann à la poubelle alors que c'est un des joueurs les plus importants de l'histoire du football français quand même. Vous me le balancez à la poubelle parce que Olise régale maintenant. Un peu de respect pour l'histoire quand même.
Tu pars dans l'extrême, tu parles de poubelle. Ça va pas.
T'as dit oui, Griezmann quand même. Non, mais excuse-moi, quand j'entends Griezmann quand même, il y a déjà deux mots qui sont en trou.
Ouais,
Non, Griezmann, vous pouvez pas me le mettre à la poubelle. C'est le joueur phare de l'Euro 2016. C'est le joueur qui porte l'équipe de France en 2018. Bon. C'est le joueur.
Personne n'a mis à la poubelle.
Si, il y a Griezmann quand même.
Non, il y a personne qui a mis à la poubelle.
J'ai entendu Griezmann quand même.
Vas-y, Axel, tu peux continuer.
Mais c'est pas poubelle.
Daniel, ici, il est 2h du matin.
Si, quand même, c'est poubelle.
Et ça va, t'enflammes pas pour rien. On t'appelle avec le sourire pour parler de football, pour juste parce qu'on vient de.
Mais en fait, faut le laisser quand il s'enflamme comme ça, il faut le laisser parler et continuer.
Regardez, il redescend tout seul.
Est-ce que vous avez. Ah bon, Ronaldinho, Ronaldo, Rivaldo, mais à part ces exceptions-là, vous avez déjà vu dans les autres équipes, je sais pas, Pays-Bas, c'est déjà arrivé.
Mais trop de Bastel, Richard Gullit, je sais pas.
Non, mais je comprends ce que tu dis. Oui, c'est vrai que c'est une force et un atout pour les Bleus. C'est absolument exceptionnel ce que tu as là en force offensive en ce moment.
Ce qui manque un petit peu, juste pour pas être trop sur la culture de l'instant, par rapport aux exemples que vient de citer Gilbert ou dont on t'a parlé juste avant, même en France, c'est un peu de pérennité. C'est-à-dire que si ces gars-là nous emmènent loin, durent un petit peu dans l'histoire des Bleus, on pourra vraiment dire ce trio magique, comme on a parlé d'un carré bien magique. Sûr, là, t'as raison. Là, on peut que savourer un truc, une sorte d'éclosion. Et j'ajoute Olise notamment parce que c'est un peu plus récent, en se disant top, la révolution d'Embélé, même personnelle qu'il a eue depuis le PSG, on pouvait pas la prédire il y a deux ans non plus. Donc moi, si ces trois-là, comme tu le dis, et t'as forcément raison sur ce qu'on vient de voir, font le bonheur des Bleus, quels que soient les résultats d'ailleurs, là en 2026, 2027, 2028, là tu auras raison sans doute, ça sera comme Rijkaard, Van Basten, tu l'as dit, et Gullit, ce sera comme les autres qu'on a cités avant. Là c'est simplement que c'est tout nouveau,
Les Brésiliens qu'il a cité en 2006 sont finis dans le ravin, ceux de 2002, je sais pas si c'est à ça que tu fais allusion.
Oui, c'est à ça que je fais allusion.
Pardon, donc il y avait effectivement Ronaldo devant qui avait été Ballon d'Or, Rivaldo était en 10.
C'est énorme.
Voilà. Ouais. Ronaldinho était un peu en dessous à ce moment-là.
Mais Adriano
il a été
aussi.
Ballon d'Or plus loin.
Donc il y a quand même trois Ballons d'Or. Et t'as raison, en revanche, potentiellement, dans une histoire tout à fait crédible, un Mbappé peut être un Ballon d'Or, quelle que soit l'année, un Dembélé l'a été, et un Olise pourrait l'être. Ça, c'est pas totalement dingo. Mais bon, pour l'instant, on n'en est pas tout à fait là. C'est le début d'un. Peut-être le début d'un beau roman, quoi.
Bon, en 2006, Totti, Del Piero et Cannavaro ont joué ensemble.
Il y a
un trio qui va tomber. Depuis tout à l'heure, il cherche.
Non, j'ai pas eu besoin de chercher longtemps, mais.
Okay.
Sur Mbappé, tu veux nous dire quoi, Axel, parce qu'on était sur le dossier Mbappé là. Après, on va ouvrir le dossier Olise qui pourrait battre un record. Je vais vous expliquer lequel dans quelques instants.
Ah, vous critiquez les records tous les jours et vous sortez que des records.
Sur Mbappé, faut parce que tout à l'heure on parlait d'attitude, etc. Je pense que le Mbappé de Coupe du Monde, c'est un des meilleurs joueurs de l'histoire de la Coupe du Monde, que ça soit 2018, 2022, 2026. Je pense que c'est exceptionnel. Peu importe la saison qu'il fait, la saison qui est en cours, dès qu'il est en mode Coupe du Monde, pour nous, la France, c'est du pain béni, et pour les yeux du monde entier, c'est n'importe quoi. Il a un niveau qui est exceptionnel. On l'aime ou pas en club, je pense que tout le monde retourne sa veste quand c'est la Coupe du Monde.
Alors,
mais
là,
derrière
là
lui, on le soutient.
Ouais, encore une fois, un club, ça ne se monte pas tout seul. L'équipe de France, elle est très forte. Tu n'arrêtes pas de citer des joueurs très importants dans cette équipe et tu as raison. Tu as un collectif, on l'a dit, on n'arrête pas de le dire, l'état d'esprit, c'est tous ensemble. Et en club, quand il y a eu des problèmes, c'est pas lui qui les crée. Regarde bien qui était avec lui, comment ça se passait, comment c'était dirigé, est-ce qu'on lui a fait subir aussi des choses folles. Cette année, quand même, au Real, on lui a ausculté un mauvais genou, quand même. C'est hallucinant ce qui s'est passé cette année, quand même, au Real. Bon, voilà, si le Real se remet à l'endroit comme il l'a été pendant des années, sûrement, après, qu'il ait peut-être pas fait le bon choix d'y aller au bon moment, si cela, ça c'est encore un autre débat. Mais si on recrute des défenseurs, des milieux dans cette équipe, t'inquiète pas qu'on reverra un grand Mbappé, même en club.
Ah ouais, tout à fait. Mais bon, dans tous les cas, moi, 40 buts par saison, je suis convaincu, il n'y a pas de. Juste une dernière chose par rapport à. Au fait qu'on joue à 4 offensifs, peut-être que la maturité d'Mbappé à 27 ans, parce qu'il faut oublier qu'il a que 27 ans, donc effectivement, peut-être qu'aujourd'hui c'est un autre leader qu'il y a 2 ans et qu'il y a 4 ans, mais la maturité qu'il a et de savoir faire les efforts qu'il a maintenant en équipe de France, c'est peut-être aussi le compromis et la condition pour laquelle Deschamps accepte de les faire jouer à 4. C'est ok, on joue à 4, mais Mbappé, ton rôle évolue un petit peu plus, et là on le voit faire des efforts, on le voit faire du pressing, on le voit faire beaucoup de choses qu'il faisait beaucoup moins ou presque plus, et quand on le voit comme ça, alors tout à l'heure on parlait d'équilibre aussi. Je pense que tant qu'on joue dans cette condition-là, avec des mecs impliqués à 100% de Mbappé jusqu'à Maignan, je pense que l'équilibre, on verra contre les grosses équipes, mais il y a des certitudes qui sont installées. Et je pense que les équipes adverses auront plus peur, et c'est plus, enfin, elles auront vraiment plus peur de la France que l'inverse. Je pense que même si on joue contre la France en se disant ils sont déséquilibrés, on va mettre un surplus offensif, un surnombre offensif, bah non, ils ne peuvent pas faire ça, parce que derrière, c'est trop compliqué de défendre sur ces quatre mecs-là. Qui peuvent sur un espace, on le verra contre le Paraguay, je pense. Ce qu'on n'a pas vu avec l'Allemagne, c'est que sur un crochet, un espace, un appel de balle, une passe, ils peuvent déclencher ce que la plupart des équipes ne peuvent pas faire.
Merci Axel.
Merci à vous, bonne soirée.
Salut, bonne soirée. Et si tu rappelles 3 fois, on aura un triple Axel. Je vais vous quitter là-dessus. Alors cette blague est pourrie, donc on va faire un peu de coaching. Tu sors,
c'est normal.
Voilà, je mets rien.
Tu sors.
I dis ça vite. Voilà. Walid Acharchour va rentrer dans quelques instants. Samuel, est-ce que tu peux rester quelques minutes encore avec nous, parce que je veux quand même te poser la question sur Olysée avant que tu partes.
Allez, la question sur Olysée, et après. Après, je vais devoir vous laisser.
Mais je vais devoir vous laisser. Il y a un monsieur qui t'embête aussi.
T'inquiète pas, on a toujours des questions. Allez, on se retrouve pour faire vite. On se retrouve tout de suite avec Olysée au programme. L'évaluation complète, l'actualité du jour de la Coupe du Monde, le match Mexique-Équateur qui démarre dans une heure. La nuit de l'after continue jusqu'à 5h du matin sur RMC. À tout de suite.
RMC, l'after foot, intégrale Coupe du Monde.